Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Fred, allô Germain. Est-ce qu'une marque a une histoire plus particulière que celle de Volkswagen?
Non.
Oh, t'as quand même hésité un peu. J'aime ça.
C'est pas parce qu'on est des fans de chars qu'on est des incultes pour autant.
Ben non, je sais pas qui a dit ça, mais pas moi.
Au contraire, moi, je sais pas pour toi, mais moi, je suis quand même un grand fan d'histoire. Puis de l'histoire, Volkswagen en a beaucoup. Puis ça tombe bien parce que c'est un modèle qu'on affectionne particulièrement. Toi puis moi, les deux, on est propriétaires d'ailleurs de modèles Volkswagen.
Le hasard fait bien les choses quand même.
Quand même. Fait que j'aimerais ça qu'on fasse un petit récapitulatif de l'histoire assez fascinante de cette marque allemande.
C'est une excellente idée. On part?
On part.
Fred, toi, tu conduis un Westphalia?
Oui, monsieur. Ben, l'été, là.
Oui, et quand il est pas en panne.
Quand il pète pas.
Il l'a dit lui-même.
Eh oui.
Et moi, je conduis une Volkswagen Jetta 98.
VR6,
soulignons-le. Mais il s'est passé bien des choses avant que ces deux modèles-là arrivent sur le marché. Je te laisse commencer.
Germain, pour n'importe quel connaisseur d'automobile, c'est inévitable. Volkswagen, c'est souvent associé à quelque chose d'assez dégueulasse aux nazis, au gouvernement nazi en Allemagne, qui a causé bien des dommages.
Oui, mais il faut remettre quand même certaines choses en perspective. Volkswagen n'est pas le seul constructeur à être lié à Hitler. Il y a un collègue du site Jalopnik qui disait « Avez-vous déjà vu Adolf Hitler dans une autre voiture qu'une Mercedes-Benz? » La question est bonne parce que sur toutes les photos qu'on voit de lui dans un véhicule, c'est une Mercedes.
Bon.
Il y a Opel aussi, un constructeur allemand qui avouait travailler ouvertement avec les nazis. Puis Henry Ford, ça c'est un peu rigolo quand même, qui a reçu une carte d'anniversaire directement de la part d'Adolf Hitler. Je sais pas pour toi, Fred, mais moi j'en ai pas reçu.
Fait qu'Adolf, il avait les bras longs, là.
Oh, très, très, très longs.
Il faut dire que la perception qu'on a aujourd'hui d'Adolf Hitler, c'est comme le gros méchant de l'humanité, là.
Oui.
Mais
avant de s'embarquer dans la guerre, il a fait autre chose.
C'est ça. Puis la guerre a commencé en 1939, mais lui, il a été impliqué en politique bien avant la Deuxième Guerre mondiale, dès la fin des années 20, avec 10 ans avant même. Fait que
vous savez tout maintenant.
Ben oui, non, mais c'est ça. Mais dans les années 30, peut-être jusqu'au début de la guerre, c'était un politicien qui avait des ambitions très fortes pour l'Allemagne, des ambitions qui passaient par la prospérité économique de ce pays-là.
Dont le réseau routier.
Oui, pour lui, c'était super important, un réseau routier bien établi d'ailleurs.
Un troisième lien, il aurait voté pour lui.
Probablement. Mais tu sais, les autobahnes qu'on connaît aujourd'hui en Allemagne, c'est assez impressionnant, puis ça a parti pas mal dans ces années-là. Puis Hitler, il y avait un rêve, puis c'est un rêve qui date même d'avant le gouvernement nazi, mais on peut quand même lui donner le crédit, là. J'aime pas ça donner le crédit à un monstre, mais on peut quand même lui donner le crédit. C'est lui qui a mis sur roue l'Allemagne, parce que Hitler avait un projet, puis c'était de créer une voiture qui serait accessible
pour le peuple,
le grand peuple, une voiture du peuple. C'est ça que ça veut dire Volkswagen, là. Je pense que j'apprends pas grand-chose à personne, mais c'est vraiment lui qui a amené ce projet-là, ou en tout cas qui a débuté le projet, parce que
puis il a fait ça quand, au Salon de l'Auto de Berlin, en 1934, il a présenté son projet d'offrir une voiture abordable pour que un peu tout le monde puisse s'en procurer une.
Oui, puis il a même lui-même dessiné des sketchs de ce à quoi cette voiture-là pourrait avoir l'air. Il faut rappeler que Hitler, avant d'être un grand tueur, c'était un peintre. Hein?
Oui, qui avait la fibre artistique développée.
Qui a échoué un examen d'admission à l'Académie des beaux-arts de Vienne, en Autriche. D'ailleurs, là, on s'en va ailleurs que l'automobile.
Mais c'est pas la première fois qu'on prend...
Mais il y a un livre.
Qu'on dérive.
Il y a un livre, Germain, qui s'appelle « La part de l'autre » de l'auteur Éric-Emmanuel Schmitt.
D'accord.
Puis il se demande qu'est-ce qui serait arrivé si Hitler avait été accepté à l'Académie des beaux-arts.
Et
le livre, ça passe comme en deux parties. Il y a une partie qui est comme réelle ou à peu près où il a été refusé. Puis il y a une partie qui est fausse, qui est romancée, où là, il a été accepté à l'Académie des beaux-arts. Puis là, on découvre un Adolphe qui s'épanouit, puis blablabla. En tout cas, fin de la parenthèse. Mais en gros, le vrai monde a voulu qu'il ne soit pas admis à l'Académie des beaux-arts.
Quand il a parlé pour la première fois d'une voiture qui s'adressait au peuple, il visait vraiment pas l'aristocratie, parce qu'il parlait de 990 Reichsmark, ce qui équivaut à 400 $ américains avec la devise à l'époque.
400 piastres, Bon, le monde gagnait. Le monde gagnait un petit peu moins aussi, là. Mais c'est ça, on visait vraiment. Puis tu sais, on voulait un véhicule simple, facile à réparer, puis qui était capable aussi d'accueillir, je pense, 4-5 personnes confortablement. On va le mettre entre guillemets, là. Ouais. Mais pour ça, réalisant qu'il n'y avait peut-être pas tous les talents pour faire ça, il a fait appel à une autre figure assez connue du monde de l'automobile.
Monsieur Porsche.
Monsieur Porsche.
Oui.
Monsieur Ferdinand.
Je pensais que tu
y allais. Je te donnais la réplique, mon cher.
Vas-y.
Ferdinand Porsche.
Oui, qui était chez Daimler juste avant de réaliser son rêve. Et c'est entre autres l'homme qui est derrière la Mercedes SSK.
Oui, entre autres, il a travaillé sur plusieurs projets. Il a finalement eu sa marque à lui beaucoup
plus
tard.
Mais il n'est pas sorti de nulle part, c'est ça que...
Il n'y avait pas encore les Porsche qu'on connaît aujourd'hui.
On était encore loin de la 911.
Oui, totalement. La 911 qui est arrivée en 63. Mais Ferdinand Porsche travaillait déjà dans le milieu d'automobile puis il a collaboré avec Adolf Hitler pour créer ce véhicule-là. Il a d'ailleurs fait de la prison après la Deuxième Guerre mondiale, M. Porsche.
Tout ça pour dire qu'en 1938, il débute la construction d'une nouvelle usine à Wolfsburg, en Allemagne.
Qui ne s'appelait pas encore Wolfsburg à cette époque-là.
Non, et Wolfsburg est un nom qui est encore utilisé par Volkswagen aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est fascinant.
Puis c'est une ville de grande importance quand même en Allemagne qui n'existerait probablement pas si c'était pas de cette usine-là, qui, à ce jour, demeure l'usine la plus importante de Volkswagen en termes de production. C'est gigantesque comme usine.
Puis rêve d'ailleurs de la visiter.
J'aimerais beaucoup aussi. Puis la
Volkswagen... Mais là, on est en 1938.
Oui.
Il débute la construction de l'usine.
Oui.
Et un an plus tard, voilà.
C'est la guerre.
Tout à fait.
C'est donc, le début de la guerre. L'Allemagne envahit la Pologne. Hits the fan, comme ils disent.
Oh oui, big time, mon Trump, big time.
Big time, puis la guerre, bon, dure 5-6 ans, ça finit en 1945.
Et le 27 décembre de cette même année-là, la première Volkswagen sort de l'usine.
C'est ça. Mais là, c'est là qu'il faut comprendre que quand on dit Volkswagen, c'est une auto de nazi, ben la première vraie Volkswagen destinée aux civils est sortie de l'usine
après les nazis,
après la guerre, donc voilà. Après le régime nazi. Fait qu'il faut faire attention. Oui, les nazis ont eu une influence à jouer dans le développement de la coccinelle de cette marque-là, mais de dire que c'est une marque de nazis, il y a quand même un pas à ne pas franchir.
Voilà.
De 45 à 49, en fait, l'usine était gérée par l'occupation anglaise à l'époque. Puis en 49, on a remis ça au gouvernement allemand qui était décidément plus un gouvernement nazi. Ça faisait quand même 10 ans que la Première Guerre mondiale avait éclaté. Fait que le gouvernement nazi a joué un rôle dans les balbutiements, mon mot préféré, de la...
On aurait pu aussi dire la genèse.
De la genèse.
Ou les premiers soubresauts.
De la marque Volkswagen. Mais la marque n'est résolument pas nazie. Est-ce que c'est clair? Fait que là, t'es en 1945-46, les premières coccinelles envahissent le marché, puis ça a été un tabarouette de succès. Hein?
Oui, parce que, en fait, au total, ils en ont vendu... Écoutez bien, je ne suis pas très doué avec les chiffres. 21 529 464 unités.
Puis en quelle année ils ont arrêté de la faire, Germain?
En 2003.
C'est fou,
ça,
là.
C'est incroyable.
T'étais né?
J'étais né. C'est la première fois qu'on parle d'un moment historique où j'étais né.
Félicitations.
Donc, le modèle a été sur le marché de 45 jusqu'à 2003.
21
évidemment, là,
millions d'exemplaires.
Au Canada, on ne pouvait pas acheter une Beetle dans la forme... qu'on l'imagine en parlant de la vieille Beetle,
ouais.
Mais c'était réservé à des marchés un peu plus émergents.
Dont le Mexique, parce que...
Ça en est servi comme taxi longtemps.
Oui,
hein?
Ben encore aujourd'hui, si tu vas au Mexique, il y en a en tabarouette des coccinelles, parce que...
En vert et blanc.
Ce modèle-là a été construit à Wolfsburg, en Allemagne, jusqu'en 78.
Ouais.
Sauf qu'en 78, on a construit une nouvelle usine, une grosse usine gigantesque à Puebla, au Mexique. Puis c'est le premier modèle qui a été construit là à Puebla. C'est la coccinelle qui est carrément déménagée là. On a arrêté de la faire en Allemagne. Puis à partir de 78 jusqu'en 2003, la coccinelle originale a été construite par des Mexicains.
Une usine que tu as visitée, si ma mémoire est fidèle.
Oui, ça fait pas longtemps. C'était en octobre, novembre peut-être.
L'automne dernier.
Oui, puis d'ailleurs, c'est encore là que la Beetle actuelle est construite. Volkswagen a annoncé qu'on allait arrêter la production de la Beetle cette année, donc il n'y aura pas de Beetle en 2020. Ça va être la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945, qu'il n'y aura pas de coccinelle qui va être construite.
Je pense que je vais verser une larme.
C'est fou, parce que pense-y, ils ont construit la Beetle originale jusqu'en 2003,
ouais.
Mais à partir de 1998, il y avait la New Beetle qui est redevenue la Beetle en 2012, je pense.
Mm-hmm.
Fait qu'en gros, il y a toujours eu une coccinelle en production, que ce soit à Wolfsburg ou à Puebla au Mexique. Puis cette année, là, quelque part au courant de l'année, ils vont arrêter de faire la Beetle. Puis ça va vraiment être la fin d'une époque. Volkswagen disent qu'ils en referont plus jamais. Moi, j'ai un bémol là-dessus.
Faut jamais dire jamais.
Ils vont sûrement revenir avec une Beetle électrique dans 5
ans. C'est sûr.
Mais quand même, ça marque vraiment la fin d'une époque. Ben, 2003 était clairement la fin d'une époque avec la fin de la Beetle originale.
Et on a pensé la remplacer bien avant, en plus. Parce qu'en 1974, Volkswagen est arrivé avec la Rabbit.
Oui.
Qui voulait un peu le modèle économique, là, le modèle d'entrée de gamme.
Puis plus moderne, tu sais, un moteur placé à l'avant, refroidi à l'eau.
Comme on parlait d'un seul modèle, aujourd'hui, on s'attendait à ce que le réalisateur soit tranquille sur la souris d'ordinateur et avec Google. Mais non, on l'a quand même surpris à regarder des Beetle sur les internets.
C'est un
et,
fan.
Je l'ai vu quand même accroché sur le modèle doré. Ben, c'est quand même intéressant de noter que lorsqu'est venu le temps de produire la millionième unité, Volkswagen a fait ça en grande avec une édition complètement dorée. Elle n'a pas été vendue, là.
Puis aujourd'hui, elle vaut sûrement
son pesant d'or!
Fait qu'écoute, l'histoire de Volkswagen commence là. Commence avec cette voiture-là qui a été pensée pour le peuple, je le mets entre guillemets, puis dont la plateforme a donné naissance à plein d'autres modèles. Ça a été des modèles pensé pour la guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après ça, ça a été un véhicule que j'affectionne particulièrement, le Type 2 ou le Volkswagen Bus, le Westphalia. Ça a donné naissance à la Karmann Ghia.
Au Notchback, Squareback et Fastback.
puis de là sont découlés, bon, t'as parlé de la Golf tantôt, la Jetta, évidemment, la Passat, tous les véhicules qu'on connaît aujourd'hui. Puis Volkswagen, maintenant, fait partie du top 3 des plus grands constructeurs mondiaux. Avec, il y a le groupe Nissan, Renault, Mitsubishi.
Ouais.
Il y a aussi Toyota qui est tout le temps là-dedans. Mais Volkswagen a un énorme rôle à jouer dans l'industrie automobile. Puis ça a tout commencé avec un petit véhicule commandé par un certain de raciste. Il faut savoir faire la part des choses. Est-ce que Volkswagen est une voiture fondée par les nazis?
Non.
La marque, non. Mais je veux dire, Hitler, le gouvernement nazi, a quand même eu son rôle à jouer
oui.
dans son développement. Il faut pas s'en cacher. Volkswagen déteste parler de ça. En fait, déteste parler de Volkswagen avant 1950,
hein?
avant que ouais. ça devienne une compagnie privée. Donc, c'est ça, Germain. Est-ce que Volkswagen est une marque de nazi?
Non, ce serait faux de dire ça. Cela dit, l'implication de l'Allemagne était très présente dès la naissance de la marque. Évidemment, c'est cliché, mais rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Je pense qu'on a droit ici à une belle zone de gris.
Une zone de gris comme le nuage qui est craché par une Volkswagen TDI 2014.
Franchement.
Écoute, Germain, j'ai apprécié faire ce podcast à saveur historique avec toi. Je trouve ça assez fascinant, l'histoire de Volkswagen. Vous pouvez d'ailleurs lire l'histoire de Volkswagen d'une façon très détaillée sur le site du Guide de l'Auto. C'est notre collègue Alain Morin qui a pondu cette histoire-là. Si vous
le salue.
Ouais, on le salue, puis l'article s'appelle Volkswagen Beetle de 1934 à aujourd'hui, puis ça explique très bien toute l'histoire du modèle, mais aussi de la marque, parce que la marque a commencé avec la Beetle. Fait que pour nous, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était Germain Goyer et Frédéric Mercier à l'animation. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur peu importe la plateforme sur laquelle vous vous retrouvez.
Merci à Bastien Gagnon La France à la réalisation et à Philippe Séguin au montage.
C'était une production Cube Radio.